les écrivains en question se sont demandé ce que c'était que le temps. Le temps, brusquement, leur est apparu comme fuyant de partout, prenant de nouvelles courbes, bouleversant ce qu'on pouvait penser de la mémoire, de la perception de cette mémoire, de la perception même de leur existence quotidienne en fonction de cette mémoire ouverte, comme si s'était produit une sorte d'hémorragie du temps. Et les réponses, ça s'appelle « À la recherche du temps perdu », ça s'appelle « Ulysses », c'est-à-dire une fantasmagorie irlandaise sur ce qui a pu se passer de fondamental dans l'Odyssée. On pourrait parler d'Ezra Pound, c'est pareil, parce que qu'est-ce que c'est que cette manie qui arrive tout à coup dans les années 20 ou 30 de se demander exactement ce qui a pu arriver à Ulysse. Pourquoi ce héros est-il brusquement et de nouveau parmi nous? Je le convoque dans Le cœur absolu, Ulysse, l'Odyssée. Et j'ouvre l'Odyssée, et tout à coup, des tas de nouveautés, des tas de questions brûlantes pour l'existence quotidienne d'aujourd'hui m'apparaissent. Tout simplement parce qu'il me semble qu'on peut reparler d'une façon tout à fait nouvelle, encore malgré Joyce, et au-delà de lui même, de l'Odyssée. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le lit d'Ulysse ? Pourquoi est-ce que finalement personne ne pourra le reconnaître? Le chien le reconnaît, il meurt, la nourrice reconnaît sa cicatrice, mais sa femme ne le reconnaît pas. C'est drôle quand même. Il rentre chez lui, sa femme ne le reconnaît pas. Elle va le reconnaître uniquement lorsqu'il va lui rappeler le secret de fabrication de leur lit. C'est une question intéressante, d'autant plus que, par exemple, l'Odyssée, nous qui avons été submergés par la pensée psychanalytique, et à juste titre, parce qu'il faut se baigner dans tout ça, même problème d'ailleurs avec la psychanalyse, Freud et tout ça, c'est une histoire de questionnement du temps. On a affaire au temps, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas se demander quelle est la pensée de l'époque, la pensée du temps. La pensée de l'époque et la pensée du temps, ça sera une nouvelle pensée du temps, tout simplement. Du temps en tant que tel. Et, mais qu'est-ce que vous voulez? L'Odyssée, ce n'est pas inscrit au programme des névroses, parce que c'est une réussite complète sur les rapports entre père et fils. Et, père et fils, c'est bien aussi ce que Joyce pointe dans son Ulysse, c'est-à-dire que c'est peut-être une des questions taboues du temps. Father times, hein? Mother species, la mère, ce sont les espèces, les substances, mais le père serait dans la dimension des temps, du temps des temps. Vous voyez qu'on peut faire jouer tout ça, et que ça prend des formes qui ont l'air ésotériques ou sophistiquées, pas chez Proust, qui est un grand calme quant au temps, mais avec c'est un calme qui poudroie à chaque instant. N'est-ce pas? Le sujet de la narration chez Proust est pris dans cette affaire-là aussi. On peut citer aussi. Et là, on a la jonction entre la voix et cette espèce de hiéroglyphe effervescent du temps très très ancien et en train de revenir sur place, ici et maintenant, au moment où l'écrivain agit. Hein, il est là en train d'écrire, en même temps il convoque comme des âmes mortes mais qui revivent sous sa plume des tas d'histoires de l'humanité. Ça, je crois que c'est la situation nouvelle. Voilà, vous la trouvez pas du tout au 19e siècle, vous la trouvez pas du tout non plus dans toute la période classique. Nous avons des histoires de temps bizarres. Je prends un exemple très très massif. Nous sommes en approche dans notre avion français, là. Nous approchons de la commémoration de la Révolution française. Et alors déjà, on sent très bien se mettre en place les batteries, les stocks de références, les stocks de discours, pour une question de commémoration. Vous avez remarqué sans doute que les commémorations se font comme par hasard, hein, de plus en plus fréquentes. On prend une année et on regarde dans l'année ce qu'on a commémoré. Hein. Les programmes se font en fonction des commémorations. Ça aussi, c'est très indicatif, parce que soit on est vaguement drogué au programme préétabli, on va suivre toutes les commémorations comme si c'était une série d'enterrements dans le vague, ou alors au contraire, on va comprendre que le fait d'avoir affaire sans cesse à la commémoration indique justement cette pulsation nouvelle du temps. Bon, alors, on va essayer de se débrouiller avec cette histoire de commémoration de la Révolution française. Là-dessus, évidemment, tous les discours sont prêts. Vous avez le côté UCAP, vous avez le côté jacobin, vous avez les discussions là-dessus. Est-ce que c'est ça l'important? Est-ce que la réitération des différents corps de doctrine politiques ou sociaux, cerne bien le phénomène de la Révolution française, ou bien est-ce qu'il y a un repli du temps dans cette question qui est en train de réinsister et qui nous interroge profondément? Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, tout ce qui reçoit de la fin du XVIIIe siècle une sorte de coup d'arrêt n'a pas été vraiment évalué et interrogé. Et qu'on peut reprendre à nouveau toute cette affaire sous toutes ses formes, plastiques, musicales et physiques, c'est-à-dire la façon de vivre des gens. Voilà. Et alors on s'aperçoit que petit à petit, des travaux sortent qui nous remettent dans une interrogation par rapport au temps vivant qui aurait été en quelque sorte refermé par l'événement, le dit événement révolutionnaire. Par exemple, vous prenez une thèse remarquable, une femme qui est morte récemment, qui a publié ce livre tout à fait passionnant sur la prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, et vous voyez devant vous ressurgir un Paris dont on ne sait pas bien poser la question de savoir pourquoi il était à ce moment-là, probablement au milieu du temps. Il s'est passé là quelque chose en France. On peut essayer de décrire les coordonnées. Ça, voilà, ça s'est vécu, écrit, chanté, joui, d'une certaine façon, au milieu du temps. C'était là. Alors, bon, ça a été arrêté. Et là, si vous tirez ce fil, alors il y a des tas de choses qui surgissent. Exemple, j'en parle parce que je viens de travailler dessus. Il va y avoir une exposition à la rentrée de Fragonard, mais je me suis occupé de Jean-Honoré Fragonard. Et comme tout le monde, je vous décris ma façon de travailler, parce qu'au fond, je suis un amateur, et j'essaye de devenir un connaisseur en restant amateur. Et quand je travaille sur Fragonard, je pars avec les idées que tout le monde qui nous écoute a ou n'a même pas forcément, c'est-à-dire des petites connaissances de rien du tout, et probablement des préjugés, ou des faux jugements. Je me suis appris, en travaillant sur Fragonard, avec grand plaisir, parce que si ça ne me fait pas plaisir, je ne bouge pas, je me suis appris qui était Fragonard, j'ai eu beaucoup de surprises. Qui est Mademoiselle Guimard, par exemple, que Fragonard a peint, a représenté plusieurs fois cette espèce de femme que vous voyez là-bas. Vous voyez, c'est la petite là avec son petit chapeau de fleurs qui est appuyée sur la table. C'est une danseuse de l'opéra de l'époque, l'opéra Palais Royal. Mademoiselle Guimard, elle apparaît dans presque tous les tableaux de Fragonard. Et vous voyez comme c'est bien, parce qu'on a l'impression qu'elle est sur ses bras appuyée à une table, on ne voit pas ses jambes, c'est une danseuse et Fragonard ne peint jamais ses jambes. Et on a l'impression qu'elle est sur ses bras comme sur des pattes, vous voyez, comme elle a un côté poule sur ses pattes là, hein, ses bras. Une danseuse c'est des bras, c'est pas des jambes. Céline s'est trompée, il croyait que c'était des jambes, c'est pas des jambes, c'est des bras. Et là vous voyez avec son petit jabot. Bon, eh bien, c'est une des femmes galantes les plus importantes du XVIIIe siècle, dont justement il faut la thèse sur la prostitution, là, dont je viens de vous parler, qui vient de paraître, pour savoir vraiment qui elle était. Parce que si vous regardez ce portrait comme ça, vous dites, tiens, une femme du XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme du XVIIIe siècle? Alors, on ne sait pas très bien. Il faut chercher ça. Et là, il y a des gens que j'ai croisés en chemin. Je ne me serais jamais attendu à les rencontrer. C'est les frères Goncourt. Hein? Ça n'a pas l'air d'avant-garde, ça. Eh bien, les frères Goncourt, c'est des gens très, très bien qui, vraiment, comme des amateurs, poussés donc par la passion, pas par l'idée, ou secondairement, par une sorte d'idéologie, de contrepoids par rapport à la normalisation de l'époque, l'affreux 19e. Là, vous voyez la différence qu'il y a entre Madame Bovary et Mademoiselle Guimard. Qu'est-il arrivé aux femmes, par exemple? C'est très important, les femmes, pour suivre l'évolution de cette question du temps. Il faut s'y reconnaître dans le temps, il faut s'y reconnaître en femme, ça demanderait un long développement. Mais les Goncourt ont commencé à se passionner pour le 18e siècle, à un moment où c'était pas du tout bien vu. Et d'ailleurs, ils ont payé d'une certaine façon cet intérêt par le fait qu'on les considère comme des historiens de tout à fait second ordre, parce que la doxa historique n'allait pas dans ce sens-là. Et alors, ils ont commencé à collectionner des bricoles, la brocante. Puis ils sont tombés sur Fragonard. Ça valait rien, Fragonard, vous savez. En 1859, le Louvre refuse encore l'instant désiré, c'est-à-dire des histoires de balançoire avec un œil entre les cuisses d'un type renversé dans des buissons. Il est à la Wallace Collection de Londres. Finalement, personne ne s'est posé. Ils sont un peu partout, ces Fragonard. Ils sont à Stockholm, ils sont à la Frick Collection à New York. J'ai découvert Fragonard à New York, par exemple. Ça aussi, le temps et l'espace... Selon qu'on est un endroit ou un autre, on voit des choses aujourd'hui, je crois, très différentes. Plus j'étais à l'étranger, plus je voyais quelque chose comme un air de Paris très dans un système nerveux. J'ai mieux vu Rodin à New York qu'à Paris, et j'ai vu Fragonard à New York aussi. Ce qui fait que il ne faut pas compter sur les Français qui sont en France et qui font les Français pour savoir ce que c'est que la France. C'est tout simple. Il faudrait qu'ils ouvrent les yeux sur eux-mêmes depuis un exil momentané.